une histoire particulière. Comme bon nombre d'auditeurs le font chaque semaine, je reçois un jour de 2015 une demande de l'un d'eux un peu particulière. Il me demande une faveur, celle de pouvoir écouter un documentaire d'une ancienne émission spécialisée dans le fait divers, le vif du sujet. Ça tombe bien, je suis l'ancienne assistante de cette émission et complice d'Alexandre Hérault qui produisit avec Yvon Croisy le susdit documentaire. Ce n'est que bien après que je découvris que l'auditeur n'était autre que Philippe Janada, en pleine écriture de son livre « La Serpe » qui reçut le prix Femina en 2017. Redécouvrons alors ensemble aujourd'hui ce documentaire et retour sur les traces de l'affaire du triple crime du château d'Escoir avec les mêmes complices retrouvés du vif du sujet, Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Nous sommes en Dordogne, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Périgueux, dans la petite commune d'Escoir. C'est un paisible village comme tant d'autres dans le Périgord, avec ses champs, sa mairie, ses maisons, son église, et cette belle demeure bourgeoise que l'on aperçoit de très loin et qui domine la campagne aux alentours. Ici, on l'appelle le château.
Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
Henri Girard, alias Georges Arnaud, du triple crime d'Escoir au salaire de la peur, par Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Et Patrie, voici le général de Gaulle.
23 octobre 1941.
Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité.
Imaginez une nuit comme celle-ci, en automne, dans le froid et la pluie. Une nuit sans lune, comme dans les films d'horreur lorsque le tueur cherche la complicité de l'obscurité pour accomplir son forfait. Car c'est bien d'un film d'horreur dont il s'agit ici, avec tous ses ingrédients.
Nous avons entendu hier la voix tremblante du vieillard que ces gens ont pris comme enseigne, qualifié de crime sans nom, l'exécution de deux des envahisseurs.
Quant à l'assassin, son geste en fait un monstre parmi les pires que le genre humain puisse engendrer. Oui, c'est bien d'horreur qu'il s'agit. Et c'est ainsi que tout a commencé.
Jeannette. Tout le monde vous appelle Jeannette.
Mademoiselle Girard m'appelait Jeannette, elle.
Mademoiselle ça. Girard, vous appelez Jeannette?
Ah oui.
Amélie Girard?
Oui.
La tante?
Oui.
Commençons par le commencement.
Oui.
Jeanne née Valade, oui. Aujourd'hui, oui. Jeanne Desvard.
Voilà.
Quel âge vous aviez, sans indiscrétion, Jeanne?
16 ans, probablement. J'ai dû avoir après 17 ans, au mois de décembre qui suivait. C'était la guerre, vous savez, on était chez soi. Ça... Alors moi, je peux dire que là, vraiment...
Vous écoutiez la radio, il y avait...
Oui, il n'y en avait pas.
Ah, vous n'aviez pas la radio, donc vous ne pouviez pas entendre Charles de Gaulle s'adresser à la résistance.
Il y avait la personne qui tenait le restaurant, qui en avait une, elle. Et en cachette, on essayait d'aller l'écouter en cachette, parce que les Allemands étaient impérieux quand même, vous savez.
Mais on était en zone libre.
Oui. Deux fois, ils sont venus à Escoir. Alors, je ne sais plus si on était zone occupée ou pas, moi, mais en fait, on les avait sur le dos.
Ah, vous ne vous rappelez plus si vous étiez zone occupée ou pas. Enfin, vous saviez que les Allemands, vous les voyez, en tout
oui,
cas.
Oui, on les voyait. Alors, on avait peur. Et pour écouter, je vous garantis que... on avait peur. Ça y est.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'électricité?
Eh bien, oui, mais parce qu'elle fait ça tout aujourd'hui.
Oh là là.
Alors, ne bougez pas.
Mais c'est le noir complet, Jeanne.
La lampe électrique et des bougies.
Mais là, c'est pas mal pour évoquer le triple crime... d'être plongé dans le noir comme ça. C'est ce qui a dû se passer, non?
Le château d'Escoir n'est pas une des perles des mille et un châteaux du Périgord.
Jacques Lagrange.
Ce château a été acheté très tôt, dans le début du XXe siècle, par un homme qui était le collaborateur de Antoine Gadot, ministre de l'Agriculture et élu de la Dordogne. Quand on quittait un peu les ministères et Paris, on venait se reposer à la campagne, on avait un château en Périgord, c'était déjà bien, ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est dans cette ambiance rurale et mondaine que va grandir le fils, car il y a de fréquents séjours à Escoir, et tout est pour le mieux.
On dit que c'est une enfance triste car il y a ce deuil impossible de sa mère à l'âge de 9 ans.
Voilà, tout est cassé à la mort de la mère. Et il y a à côté de lui la sœur de son père, célibataire, endurcie, qui veut absolument remplacer le rôle de la mère.
La tante Amélie, donc.
La tante Amélie. Et la tante Amélie aura dans la formation du caractère du jeune Henri une influence colossale. Et il en souffre beaucoup. Il en souffre beaucoup. Et en plus, il n'a pas ce respect pour sa tante. Il a une familiarité que l'on a avec du petit personnel de la maison. Et il la méprise un petit peu.
C'était un Parisien.
Maître Monique Lacombe.
C'était un Périgourdin. Il venait en Périgord passer quelques jours de vacances. Mais c'était un Parisien. C'était, je pense, une jeunesse branchée de l'époque, une jeunesse parisienne branchée.
On pourrait dire dissolue. Un curieux physique aussi.
Non, c'était un garçon grand, maigre. C'était un grand garçon dégingandé, mais il y en a beaucoup des grands garçons dégingandés à 23 ou 24 ans. Hein.
C'était des gens vraiment... Bien. Il mérite. Moi, je ne pense pas qu'il méritait d'être, de partir comme ça.
À vrai dire, personne n'aurait dû se trouver là dans le château ce soir-là.
Guy Penaud.
Il y avait la tante qui était arrivée vers le 13 octobre 41. Elle était venue en Périgord pour se reposer, pour trouver la paix, et puis, à vrai dire, pour trouver peut-être des choses pour se nourrir, parce qu'à Paris, c'était assez difficile à ce moment-là. Henri Girard est arrivé le 16 octobre. Il avait passé clandestinement à l'île de démarcation. Il avait passé la nuit à Périgueux.
Les hôtels étaient complets, d'ailleurs.
Alors, les hôtels étaient complets. Alors, il a passé la nuit dans une maison close qui existait, le Grand 5. Très grande maison close, très, très bonne réputation. Il a passé une très bonne nuit, là-bas, d'ailleurs. Il était venu sans valise. Chose assez curieuse, pour passer un séjour assez long à Escouarn. Et donc, il était venu le matin ici. Il avait retrouvé sa tante. Et alors, sa préoccupation première, quand il est arrivé au château, ça a été téléphoner à son père. Son père occupait une importante fonction au ministère des Affaires étrangères, replié à Vichy. Il était chargé des archives, donc c'était un homme assez important, un historien, un homme officier à Légion d'honneur, donc quelqu'un de considéré, rôle important. Et le fils Girard lui a téléphoné rapidement pour demander à son père de venir. Il voulait le voir à Escouarn, le retrouver ici. Alors le père, il a hésité, il a dit, écoute, viens me voir à Vichy ou retournons-nous à Paris. Alors non, il voulait voir son père absolument. Alors après, il a dit, il voulait voir son père parce qu'il voulait évoquer sa carrière professionnelle. Il a tellement insisté auprès de son père en lui disant, mais il faut que tu viennes à Escouarn, etc., que le père finalement est arrivé, d'abord par le train de Clermont-Ferrand à Périgueux, puis il a pris un petit tramway, comme il existait alors en Périgord, la ligne de Périgueux-Exideuil, et il a débarqué à Antonne, et le fils est allé le chercher le matin, le 24 octobre, au matin, avec la valise, il l'a ramené ici au château d'Escouarn, et donc ils se sont retrouvés toute la journée dans ce château, et bien la tante qui était présente, le père Girard, c'est-à-dire son frère, et puis le jeune Girard, également il y avait une bonne qui était présente, et qui s'occupait un peu de la maison à l'absence des propriétaires.
Quelle était l'ambiance d'ailleurs entre le père et le fils ?
Pas bonne.
Ah bon?
Oh non, Monsieur Girard, il en avait par-dessus les oreilles. Parce qu'alors, c'était un vrai démon, ce drôle. C'est malheureux, parce que c'était un gars qui était vraiment intelligent. C'était un vrai démon.
Alors, disons qu'il était un peu farfelu.
Mais oui, Escouarn, là-bas, il le disait, comment c'est ce qu'il appelait? Le foldingue.
C'est comme ça que les gens ici l'appelaient? Vous l'avez vu grandir, vous, presque?
Ah ben oui. Forcément, mais il était plus âgé que moi, mais enfin, je le vois. Ce grand rouquin, là, c'est impensable.
Oui, mais c'était quand même le fils du châtelain, il fascinait un peu
mais
tout le
oui,
monde.
Ah non.
Et puis il avait de la culture.
Oui, mais enfin, je vous dis, il n'était pas désagréable, mais il ne faisait pas de conversation. Mais enfin, il tutoyait mon père, ma mère, il n'avait pas de complexe, lui, il tutoyait tout le monde. Je ne sais pas si c'était pour contrarier sa famille ou si quelque chose le poussait à faire les tours qu'il aura fait, mais c'était pas navre. Et il a toujours été comme ça. Mais tout à fait le farfelu. Tout à fait. Les gens ne s'intéressaient pas à lui. Il n'était pas... Parce que vraiment, il n'était pas sympathique.
Après les retrouvailles entre le père et le fils, comment va se dérouler cette journée le plus tranquillement du monde ?
C'est-à-dire que c'est assez simple cette journée, on sait très bien ce qui s'est passé. D'abord, il y a des amis qui sont venus rendre visite au Girard. Ensuite, des ouvriers sont venus également au château pour faire quelques réparations. Et puis le père et le fils Girard ont fait quelques travaux dans le jardin, arraché le lierre, etc. En particulier avec une fameuse serpe que le fils Girard avait empruntée aux Tolus, c'est-à-dire les gardiens du château. Et puis ensuite, ma foi, il y a le régisseur qui est venu, parce que vous savez, cette terre, il y avait non seulement le château, mais des propriétés disséminées un peu partout.
Parce qu'on allait parler d'argent, alors.
Voilà, on allait parler d'argent, alors bon, c'était entre le frère et la sœur qu'il fallait en parler, et le fils n'avait pas à être présent, et donc il s'est absenté pendant quelques instants.
Donc vers 19h30, si je vous suis bien, on passe à table pour une...
Une collation légère.
Une soupe de haricots, comme le faisait si bien Louise.
Et puis c'était spécialité du Périgord. Hein. Tout le monde a mangé tranquillement, ce repas léger. Et là, il faisait nuit quand même. Hein. Nous étions quand même au mois d'octobre, donc il faisait nuit de bonne heure. Et tout le monde s'est retrouvé. Vite, les gens, on peut fermer les volets, etc. pour passer la nuit tranquillement dans ce château.
On se couche donc le vendredi soir et la répartition des chambres semble faire l'objet d'une savante discussion. Henri, le fils, choisit d'aller coucher dans une chambre qu'il ne fréquente pas habituellement, mais qui est située à l'aile nord-est du château, tout à fait au dernier étage, alors que le reste de la famille couche en rez-de-chaussée, dans l'aile sud-ouest. Pourquoi fait-il ce choix ? Mademoiselle Coustilla m'a répété que il n'avait pas voulu coucher à proximité des autres de la famille parce qu'il ronflait et ça l'empêchait de dormir. Alors Henri Girard dort donc dans cette petite chambre de l'aile nord-est du château. Elle a une importance stratégique, cette chambre. C'est ici qu'est placé le compteur général qui alimente le château.
Ce qu'on sait, selon ce que nous a raconté Henri Girard, c'est que vers 22h, son père, Georges, va se coucher.
Et oui, parce qu'il voyageait toute la nuit pour venir depuis Vichy, et donc pour il allait se reposer. Ensuite, sa tante a voulu également... Ils ont discuté quelques instants, le fils Girard et la tante, pendant quelques instants. Et puis lui-même, Henri Girard, ensuite a quitté tout le monde, et il est monté dans sa chambre.
Donc il se met au lit vers 23h, il lit ce roman, Le sens de la mort, oui, de Paul Bourget, et vers minuit, il s'endort.
Les volets ont été tirés, les fenêtres sont bouclées, et le calme règne théoriquement dans ce château. Rien ne se passe. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, je crois qu'il faut citer, il y avait des gardiens dans ce château, qui habitaient une maison qui se trouve à 30 mètres, 40 mètres du château, et il y avait le père, Tolu, il y avait sa femme, la femme Tolu, il y avait un fils, René Tolu, un jeune homme qui était revenu depuis peu des chantiers de jeunesse. Et effectivement, ce soir-là, ce même 24 octobre 1941, eh bien, le jeune Tolu a voulu voir ses amis pour régler le problème de permis de chasse. Hein. Donc, il a traversé d'abord le soir, vers 19h ou un peu plus tard, devant le château. Il a aperçu la bonne, qui était justement à la cuisine, qui était là. Donc, la lumière était allumée, pas de problème. Il va voir ses amis, qui se trouvent dans le petit bourg d'Escoire. Et là, il passe la soirée à boire un peu. Et vers 21h30, à peu près, dit-il, bien, il décide de regagner sa maison pour aller se coucher. Et... chose étrange, quand il passe dans une allée qui longe le château, il est surpris, toutes les lumières sont éteintes.
Or si le fils Tolu a vu à 21h le château plongé dans l'obscurité, et s'il le voit 2 heures après éclairé, est-ce qu'on n'est pas en droit de penser que quelqu'un a manipulé le compteur ?
Le lendemain matin, le 25 octobre, quand Henri Girard se réveille, qu'est-ce qu'il découvre ?
Alors, quand il se réveille, il y a d'abord des choses qui sont passées auparavant, qui sont assez curieuses quand même. La tante Girard devait repartir le lendemain, ce jour-là, le 25 octobre à Paris. Elle avait demandé à des voisins de porter des poulets. Et donc, il y a une jeune fille de 18 ans à peine, ma foi, qui vient avec ses 2 poulets. Elle arrive au château, elle monte les marches, et elle arrive devant la porte de la cuisine.
Quand moi je suis allée au château, on avait attrapé ces 2 poulets, on avait ficelé les pattes, et puis moi j'avais ordre de porter ces poulets au château tant qu'elles s'en allaient chercher, se laisser passer. Alors je suis rentrée dans la cuisine, moi. avec mes poulets, toujours comme je vous dis sur le bras. Et puis j'ai dit, tiens, c'est bizarre, la cuisinière n'était pas allumée, il y avait plus ou moins de désordre dans la cuisine. Je m'avance dans la grande pièce, la grande salle à manger. J'ai appelé, personne n'a répondu. J'ai entendu un bruit au bout de cette pièce, dans le couloir, où il y avait le petit salon où dormait Mademoiselle Girard. Alors moi, j'ai entendu du bruit, parce que je ne me serais pas permis de traverser la pièce, d'aller courir dans les chambres. Ah ben j'ai dit, moi je me suis dit, ça y est, elles sont dans la chambre de Mademoiselle Amélie, elles font les bagages pour demain. Et alors c'est là que je suis arrivée, moi, et puis que je suis rentrée. Mais c'était un peu dans la pénombre quand même, parce que les persiennes étaient encore fermées de la nuit, ils les avaient pas ouvertes. Alors, je vois ce corps, ses jambes, tout ça. Elle était tournée de à plat ventre, ses fesses. Je lui dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, si on est bête quand on est... Je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé les statues, puis quand même, je sais pas, il s'est passé un kilt là dans ma tête. J'ai dit, non, tu retournes. Alors, je suis repartie, je pose mes poulets. Je n'ai plus rien demandé, je pose ses pauvres poulets dans la cuisine et je file. Alors, j'ai dit à mon père... Il était en train de vouloir lier, on disait à ce moment-là, les vaches. Je lui ai dit, papa, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au château, je crois qu'ils sont tous morts. Et M. Tolu, le concierge, le pauvre diable, arrivé en courant, il était malade comme un pauvre chien, le pauvre malheureux, puisqu'il est mort peu de temps après. Il arrivait en courant et puis il criait à mon père, Jean, viens vite, au château, ils sont tous morts. Ah, ben j'ai dit à mon père, tu vois.
Alors, Henri Girard se réveille le matin vers 9h, dit-il, il a profondément dormi, il est heureux de vivre, il a envie de chanter, il descend chez les siens, il est étonné de ne pas entendre le remue-ménage habituel, des bols qui s'entrechoquent, du lait que l'on a porté, etc. Et il voit... cette panique monstre qui règne la cuisine avec le cadavre de la bonne, il sort dans le parc et il se met à crier « au secours, tout le monde sont morts chez moi. »
au secours !»
Cet homme qui appelle à l'aide s'appelle Henri Girard. C'est le fils de la maison. Il vient de découvrir les corps ensanglantés de son père Georges, de sa tante Amélie et de leur bonne Louise Soudet.
Les gens du village, ils entendent au secours, mais ils ne bougent pas tellement. Par contre, les Tolus, qui sont juste à côté, ils entendent ces cris. Et le père Tolu dit, oh, il y a peut-être le feu au château. Alors, il dit à sa femme, va vite voir ce qui se passe. Alors, sa femme, hop, elle prend la robe là, qu'elle tient dans ses bras et elle court vers le château. Elle tombe sur Girard qui lui dit, venez voir. Ils rentrent tous les deux dans le château, ils passent par la cuisine, la chambre de la bonne, hop, ils arrivent dans la chambre, deux cadavres. Vous voyez qu'ils sont bien morts, dit-il. Oh, on voit que ça a été cambriolé, dit-il. Ah, ça alors, elle était estomaquée, la femme Tolu. Alors le père Tolu, lui, est arrivé un peu de retard. Et il y avait quand même une chose qui les a assez surpris, c'est que dans la chambre de la bonne, il y avait une serpe qui était là. Une serpe qui était sur le sol. Et la mère Tolu a dit, mais cette serpe, je la connais, cette serpe. Mais c'est la serpe que m'a empruntée le fils Girard. Alors le père Tolu s'en va. Il se dirige en courant vers le bourg d'Escoire pour aller à la recherche du maire du village, M. Palem, qu'il fallait prévenir. Trois cadavres, hein, trois morts comme ça, assassinés, c'est pas une chose ordinaire.
Du sang partout.
Ah, du sang partout, il y a du sang, il y a des affaires défaites. Enfin, c'est vraiment épouvantable, les gens. Les trois cadavres sont à moitié déshabillés, la tante est en chemise de jour. Et donc, le maire du village, ben, il grimpe jusqu'au château et il tombe sur le fils Girard. Et alors là, le maire dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils ont tous été tués. Ils fumaient tranquillement, là. Alors le maire dit, écoutez, accompagnez-moi à l'intérieur pour que je vois ce qui s'est passé. Girard dit, j'en ai assez vu. Allez-y vous-même, moi je rentre pas. Ah bon, alors. Et quand le maire et le voisin ressortent, ils sont surpris parce qu'ils voient dans la cuisine Henri Girard qui était là, qui avait pris une gourde sur la cheminée et qui était en train de boire de l'eau de vie.
Mais c'est tout de même Henri Girard qui a crié au secours.
Ah oui, après moi, parce qu'il a vu que je n'étais pas... C'est lui que j'ai entendu derrière la porte. Ah. Puisque moi j'ai entendu du bruit derrière cette porte à côté de la chambre. Alors quand il a vu que je repartais... Il a dit, ça y est, maintenant, elle va donner l'alarme. Alors il dit à mon père, qui était là, bien sûr, les pauvres, ils ne savaient plus quoi faire. Passe-moi la bouteille d'eau de vie, Jean. Mais il a dit, monsieur Henri, moi, je ne sais pas où est la bouteille d'eau de vie. Elle est sur la table, là-devant. Il a pris cette bouteille, il a bu un bon coup de gnôle pour se remettre les idées en place. Et c'est là qu'il a été faire les 100 pas en attendant. Et puis il s'est mis à jouer du piano, donc. Ah oui, oui, il jouait du piano. Alors, est-ce que c'est peut-être mon père ou les autres, peut-être monsieur le maire, qui lui a dit, mais monsieur Henri, quand même... Faire de la musique maintenant. Ah, il lui a répondu, mais c'est très normal, c'est une musique un peu funèbre, c'était pour les morts.
Au procès, on lui a dit, mais écoutez, vous jouez du piano quand même, alors qu'il y a trois cadavres qui étaient là.
La première phrase, oui, de Tristesse de Chopin.
Voilà, voilà, il a dit, mais c'est Tristesse de Chopin, donc c'est logique que je joue ça. Enfin, c'était assez extraordinaire.
Seulement, c'est qu'il y avait une chose qui était sûre, c'est que il savait qu'ils allaient lui enlever sa part d'héritage. La demoiselle ne pouvait plus le supporter, elle, ça. Alors, elle savait que sa part d'héritage allait lui passer sous le nez. Alors, il a dit, c'est le moment. Ils ont dû... Est-ce qu'ils se sont fâchés parce que le régisseur était venu, ils avaient fait les comptes. Alors, est-ce qu'il a demandé l'argent? Je fais des suppositions, mais en fait, est-ce qu'ils se sont contrariés? Mais c'est bien lui qui avait été chercher cette serpe. C'est pour ça qu'il les a tués, c'est pour l'argent. Elle a eu, l'autopsie a été faite dans la cuisine du château. Elle avait quand même, sur cette autopsie, 18 coups de serpe dans le dos. Elle avait le dos mangé, elle avait les doigts coupés. Elle avait ses bagues à ses doigts. Ça serait un cambrioleur. Il aurait sûrement, tant qu'il y était, quitte à tuer quelqu'un, je ne vois pas pourquoi, il n'aurait pas pu enlever les bagues de mademoiselle Amélie. Puis cette sauvagerie, cette pauvre bonne qui l'a tuée, c'est mon père qui a retrouvé la serpe. La bonne, ça ne m'étonne pas, elle avait un coup de serpe, elle, mais alors elle avait la figure comme ça, coupée. Complètement, il lui avait coupé la figure en deux. Elle est morte sur le coup. Son père, pareil, il a dû, là, lui, il a fait comme sa tante, il n'en a pas tant eu, mais enfin, il s'est défendu, parce que c'était un gars qui était robuste. Alors, moi, je peux pas comprendre, moi, je ne peux pas comprendre, vraiment, qu'on n'ait pas compris, quand même, que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'étranger qui venait faire un crime comme ça. Pourquoi, après mademoiselle Girard, se serait-on acharné à lui donner tous ses coups de serpe dans le dos?
D'autre part, sur la main... d'Henri Girard, les gendarmes et les policiers ont constaté qu'il y avait des traces. Et cette trace correspondait effectivement à un clou correspondant au manche de la serpe. Donc là aussi, il y avait cet élément-là qui était important. Et puis cette vie dissolue qui était rapportée par tout le monde. Voilà tous les éléments qui ont fait que les commissaires ont bien interrogé Henri Girard, l'ont questionné, mais il a résisté. Il a toujours dit qu'il n'était pour rien, qu'il était innocent, qu'il n'avait rien commis et que rien ne pouvait être retenu contre lui.
Et d'après les deux enquêteurs, policiers et la secrétaire, il est prêt de craquer. Son aveu est au bout de ses lèvres. Et à un moment, il les regarde. Je vais tout vous dire. Donnez-moi un verre d'eau. Et là, il y a, d'après Madame Coustillat, la secrétaire, il y a une interruption dans le processus d'interrogation qui lui fait reprendre son souffle. Il boit son verre d'eau très lentement, il réfléchit, et quand il reprend la parole, c'est pour dire « De quoi parlait-on déjà ? De quoi parlait-on ?»
Alors le 28 octobre... 41, se déroule une scène qui va choquer certaines personnes ici, à Escoire et alentour. C'est que les obsèques ont lieu et, en présence, il y est autorisé du fils. Le soir même de ces obsèques, Henri Girard est conduit au palais de justice de Périgueux où il va avoir la rencontre avec Joseph Farizi, qui est alors le juge d'instruction. Alors, il va procéder à son interrogatoire.
et qui va le placer, qui va l'inculper tout d'abord, hein, des trois assassinats, et ensuite le placer sous mandat de dépôt et l'écrouer à la maison d'arrêt de Périgueux. Et là, Henri Girard va y passer presque 2 années.
Le 27 mai 1943, à 9h du matin, commence au tribunal de Périgueux le procès devant la cour d'assises de la Dordogne du nommé Girard Henri Georges Charles Achille, né le 16 juillet 1917 à Montpellier, étudiant demeurant à Paris, accusé de parricide, d'assassinat et de meurtre sur les personnes de son père, Georges Girard, de sa tante Amélie Girard et de leur bonne Louise Soudex. Pour sa défense, Henri Girard est assisté par 3 avocats, Maître Constant, Maître Lacombe et surtout Maître Garçon, l'un des ténors du barreau français parmi les plus célèbres à l'époque. Ces 3 défenseurs, après avoir minutieusement étudié le dossier, sont persuadés que leur client est victime d'une terrible erreur judiciaire. La salle est surchauffée. Pour l'opinion, ce procès est une formalité. L'accusé est coupable.
Vous pouvez vous asseoir.
Ah, pratiquement tout le monde pense qu'il est coupable. Il n'y a aucun problème. Tout le monde se dit, mais il y a tellement d'éléments contre lui qu'il va être condamné. Même, je crois que le directeur de la maison d'arrêt a déjà préparé la cellule des condamnés à mort. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de problème. Et donc, le procès commence. Henri Girard arrive. Il salue ses avocats. Hein. Et le président de la cour d'assises, qui a son importance, lui, décide l'après-midi, de faire un transport à escouade.
Une sorte de reconstitution.
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vite envoyé d'abord des gendarmes pour bloquer le bourg, un peu pour que la foule... Parce qu'il y avait une foule considérable qui assistait au procès à Périgueux. Ils avaient distribué des tickets, vous savez, comme pour un spectacle. Et alors, ils ont cherché quand même à savoir comment un assassin aurait pu venir de l'extérieur. Alors, tout le monde s'est transporté. Le président ou les gendarmes ont dit, voyez, alors voilà, il y a des volets, là, on ne peut pas les ouvrir. On a essayé avec une barre de fer, c'est extrêmement difficile, c'est pratiquement impossible. Et alors là, Maître Maurice Garçon a dit, mais dites-moi, gendarme, il n'y a pas une tige là ou quelque chose, une branche, passez-moi la branche. Et il passe la branche dessous le volet, et crac, il ouvre les volets, et les volets s'ouvrent. Mais quand même, le doute déjà était mis dans les esprits, parce qu'après tout, l'assassin a pu rentrer éventuellement de l'extérieur, et en particulier par cette fenêtre des WC désaffectés.
Au fil des audiences qui vont durer 7 jours, enquêteurs, experts, témoins à charge et à décharge vont se succéder à la barre avec leurs certitudes, leurs doutes et pour certains probablement aussi leurs mensonges, malgré la foi du serment. Puis vient le tour de l'avocat de la partie civile, Maître Bardon d'Armazide, représentant la fille de Louise Soudex.
Messieurs de la cour, messieurs les jurés, je tiens à dire tout de suite ici que ma conviction la plus intime et la plus profonde et qu'Henri Girard est coupable des crimes qui lui sont reprochés.
L'avocat de la partie civile, il a commencé à 9h du matin, il plaidait encore à 17h du soir. Les gens étaient épuisés dans la salle, les magistrats n'en pouvaient plus, enfin tout le monde était craqué. Et lorsqu'il a fini sa plaidoirie, les gens dans la salle ont applaudi. Mais oui, Henri Girard était coupable, c'était certain.
Il méritait la mort.
Il méritait la mort, mais aucun problème. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs l'avocat général qui en prit la suite.
Oui, messieurs les jurés, Henri Girard est coupable.
Henri Girard, alias Georges Arnaud, du triple crime d'Escoir, au salaire de la peur, Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Demain, à 13h30, ce sera la suite du documentaire Henri Girard, alias Georges Arnaud, du triple crime d'Escoir au salaire de la peur. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.